Bonjour et bienvenue dans notre nouvel épisode de One Podcast, le podcast qui vise à rendre aux ressources humaines ses lettres de noblesse. Que vous soyez dirigeant, RH, manager ou étudiant RH, ce podcast décortique les enjeux des ressources humaines. Peu importe votre taille et votre secteur, vous êtes tous concernés. L'objectif de ce podcast, vous apporter des conseils pertinents pour booster vos pratiques RH, que vous soyez novice ou expert. À la fois sur les sujets de marque employeur, de culture d'entreprise, de management des différentes générations, ce qu'on appelle l'intergénérationnel, ou encore de la RSE et de la diversité. Comment ? À partir d'exemples concrets et des interventions de nos invités, vous repartirez avec toutes les clés en main pour simplifier et booster vos RH et ainsi amener vos entreprises à devenir encore meilleures. Qui sommes-nous ? OneRH est une société de conseil en ressources humaines basée à Strasbourg qui vous aide à définir et à mettre en œuvre une stratégie et des pratiques RH et managériales adaptées aux enjeux actuels. Vous êtes prêts ? Alors installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans l'univers passionnant de One Podcast.
Aujourd'hui, c'est moi, Adrien, votre hôte pour cette exploration captivante. Je suis consultant RH chez OneRH, spécialisé sur les questions de diversité, inclusion et RSE. Dans cet épisode de One Podcast, nous plongerons dans le sujet passionnant de la diversité. Et c'est avec un immense plaisir que je vous présente Pauline Vaudeloire, DRH et cofondatrice chez Activation. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose de revenir sur le parcours de Pauline et l'association. Donc Pauline, après avoir obtenu votre master en entrepreneuriat, vous avez rapidement rejoint le secteur de l'économie sociale et solidaire. D'abord en tant que chef de projet dans une ONG, et puis en confondant votre propre association Active Action. Depuis plus de 10 ans, vous travaillez sur les questions de diversité, d'inclusion, sur les dynamiques collaboratives et les compétences psychosociales. Concernant Active Action, c'est une association dédiée à l'inclusion sociale et professionnelle qui a été créée en 2014. Et sa mission est de créer et d'animer des communautés d'entraide entre personnes en recherche d'emploi, favoriser l'accès à l'emploi pour tous, mais aussi permettre à chacun de développer ses compétences psychosociales. À travers des programmes innovants et de partenaires solides, l'association offre un accompagnement collaboratif pour développer les compétences, renforcer la confiance en soi et ouvrir des opportunités professionnelles. Pauline, avez-vous l'impression que j'ai bien résumé la mission Impact d'Active Action ?
C'est parfait. Je n'ai plus rien à dire.
Au regard de votre parcours et l'engagement d'Active Action, en faveur de la diversité, une question émerge naturellement. Comment la diversité devient-elle une force pour les entreprises et les organisations ?
Très bonne question. Pour commencer, effectivement, alors c'est pas moi qui le dis, c'est des études, mais effectivement, il y a plusieurs études qui montrent que la diversité, l'inclusion, ça favorise l'innovation, ça favorise la performance aussi. Il y a des chiffres qui montrent que, par exemple, des entreprises qui ont une diversité de genre sont 5 à 20% plus performantes. On a vu aussi pendant les périodes de Covid, justement, que des entreprises diversifiées, avec des profils diversifiés, s'adaptaient mieux aux contraintes et aux changements. Après, je pense qu'il y a des enjeux de marque employeur. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes cherchent aussi à rejoindre des entreprises qui ont un impact sur leur territoire, qui portent des valeurs fortes, et donc du coup de valoriser aussi ces actions vers la diversité et l'inclusion, ça joue sur l'attractivité de son entreprise et de sa marque. Et voilà, principalement, c'est ces gens-là. Et je pense aussi pour l'entreprise d'avoir un impact sur son territoire et de faire vraiment partir d'un écosystème où c'est pas juste mon entreprise, mais c'est comment je m'insère dans mon territoire et comment j'ai aussi de l'impact sur celui-ci.
Tout à fait. Vous parlez de chiffres. Effectivement, il y a une étude de PwC, Diversité, d'octobre 2011, qui dit que 80% des jeunes ici de la génération Y déclarent que la politique de l'employeur en matière de diversité et d'égalité des chances est un facteur important. Alors, ça date de 2021, l'étude date un peu, on est en 2024, mais c'est vrai que de plus en plus, et avec la génération Z qui arrive sur le marché du travail, on s'aperçoit que c'est hyper important. Et justement, par rapport aux enjeux dans une entreprise, dans une association, dans une organisation, quels sont, au-delà de la marque employeur, quels sont les enjeux selon vous, mais aussi peut-être aussi les obstacles que vous pouvez rencontrer lors de la mise en place d'une politique diversité?
Alors par rapport à cette question, je pense que c'est important justement, vous parlez de chiffres, de se rendre compte que finalement quand on parle de diversité et inclusion, si on prend là les enjeux même sociétaux à l'échelle de notre pays, il y a encore des chiffres qui sont assez alarmants, comme par exemple 9% des étudiants en cursus master sont issus de familles d'ouvriers, donc c'est 9% par rapport à... Voilà, le chiffre est pas quand même très très élevé. Sur plus d'un million de personnes qui ont été confrontées à des propos racistes, etc. Il y a juste 0,6% de personnes qui sont condamnées ou d'affaires qui vont en justice. Il y a encore une personne sur deux qui appartient qui appartient au groupe des LGBTQI+, qui se dit discriminée tout au long d'une année, etc. Donc voilà, il y a encore ça montre l'impact encore des discriminations et l'enjeu derrière ça au niveau sociétal, c'est que ben ça crée de l'exclusion, ça crée aussi des coûts pour la société, ça crée de la marginalisation, des violences sociales, ça crée aussi des problématiques de santé. Par exemple, des études montrent que les personnes homosexuelles ont il y a 3 fois plus de tentatives de suicide que pour des personnes hétérosexuelles, etc. Donc il y a aussi des forts enjeux de santé que nous on voit aussi quand on traite la thématique de la recherche d'emploi, où pareil, on voit que les problématiques de santé sont beaucoup plus importantes pour des personnes qui ne sont pas dans le monde professionnel et du coup se sentent un peu exclues.
Du parcours,
etc. Donc ça, c'est plus la vision, on va dire, sociétale. Comment ça se transfère sur les entreprises et les organisations? D'un point de vue un peu historique, la diversité, quand elle est apparue, il y avait un peu une double injonction, à la fois légale, c'est-à-dire il y a des critères de discrimination qu'on doit connaître et qu'on doit respecter, enfin en tout cas qu'on doit justement limiter, voire réduire complètement. Et puis il y avait une injonction plus morale, avec l'apparition justement de la RSE, de la qualité de vie au travail, etc. Et donc les entreprises ont commencé à mettre en place une politique de diversité vraiment silotée et axée au début très autour des enjeux de genre, de handicap, d'âge. C'était vraiment un peu les trois sujets phares. Ça l'est encore d'ailleurs aujourd'hui dans la plupart des entreprises. Et ça a évolué où en fait finalement il y a des avantages à ça, mais aussi des limites, où certaines personnes se sont dit bah déjà moi j'ai pas forcément envie d'être catégorisée dans ces normes là. Et d'autres personnes qui se sont dit ok, mais moi alors moi aussi je suis discriminée et en fait on prend pas soin de moi. Et donc les entreprises ont commencé à élargir leur spectre en créant d'autres catégories et en s'attaquant à d'autres sujets. Mais finalement, ce qui a fait continuer à multiplier les silos et de voir la diversité, ben voilà, on a des solutions pour les personnes sur le handicap, pour les femmes, pour etc., etc. Et juste pour finir là-dessus, la limite de ça, c'est que finalement, aujourd'hui, il y a ce besoin de finalement de transversalité, de se dire ok, la diversité c'est ça, mais comment on travaille justement sur l'inclusion et comment les processus qu'on met en place, les outils, la vision qu'on a, elle est transversale et elle va venir répondre à beaucoup de choses et surtout à s'attaquer à la non-discrimination plutôt qu'à des catégories silotées, etc.
Oui, c'est tout l'enjeu finalement, comme vous le disiez, il y a plusieurs silos de discrimination. Comment une entreprise finalement arrive à, dans sa politique diversité-inclusion, à être de manière transversale, pour pas dénigrer les autres catégories discriminées. Et justement, vous, dans votre politique diversité chez Active Action, comment ça se concrétise?
Alors, il faut savoir que nous, déjà dans notre objet social, on travaille sur ces sujets-là, et après il y a l'interne. Enfin voilà, donc finalement, on traite ces sujets de deux manières, même si les deux sont beaucoup liés. C'est-à-dire que dans nos actions déjà auprès des personnes en recherche d'emploi, depuis le début de la création d'Active Action, on a souhaité créer des groupes d'entraide entre personnes en recherche d'emploi totalement diversifié et travailler sur cette notion-là, de pas se dire on s'adresse aux personnes de moins de 26 ans ou au bac plus 3, etc., mais vraiment d'accueillir un maximum de variété de profils. Et donc, comment ça se... Justement, je parlais de la transversalité. Qu'est-ce qu'on a mis en place pour réussir ça? C'est finalement de se dire, dans notre posture, donc nous, on anime des ateliers collaboratifs. Donc, dans cette posture, quand les gens vont venir dans nos ateliers, comment on va faire pour que cette inclusion, elle puisse avoir lieu? Et donc, on a travaillé, et donc c'est des choses aussi qu'on fait en interne, sur la posture de non-jugement, la posture de neutralité, la posture de questionnement, de se dire, bah voilà, si je suis face à quelqu'un qui a peut-être un avis différent ou qui... voilà, comment je vais plutôt être dans cette posture de curiosité, de me dire ok, et si, ou alors d'aller questionner la personne pour comprendre son point de vue, etc. Donc cette posture de neutralité, quand on fait de la facilitation, en fait elle permet à ce que les gens qui viennent dans nos ateliers se sentent pas comparés aux autres, etc. Notamment, par exemple, on parle pas du CV, on parle pas trop de son parcours professionnel, et on demande aux gens de se présenter par des choses qui les caractérisent. Et là, on se rend compte de, j'ai beau être en recherche d'emploi, il y a d'autres choses que juste...
mon CV, finalement.
Voilà, mon CV qui me représente. Donc il y a cette notion-là qu'on a portée qui n'était pas facile, parce qu'au début on disait mais nos financeurs ou nos partenaires nous disaient mais pourquoi vous vous adressez à tout le monde et pas aux personnes qui en ont le plus besoin. Et ce qu'on met en place et un des focus qu'on fait, que ce soit sur nos actions externes ou internes, c'est le développement des compétences relationnelles. Mmh. Pour nous, l'inclusion et comment on fait vivre cette diversité et comment les gens travaillent ensemble, c'est comment on développe des compétences relationnelles qui vont permettre d'améliorer la qualité des relations qu'on peut avoir avec des gens qui nous ressemblent, mais aussi des gens qui nous ressemblent pas du tout. Mmh. Et donc, dans tous nos ateliers et aussi en interne, on a identifié une dizaine de compétences clés, savoir-être, psychosociales, on les appelle tous un peu différemment, qui vont permettre savoir gérer ce qui passe en nous, mais aussi comment on interagit avec des personnes d'un point de vue différent. Et voilà, après je peux vous donner d'autres exemples d'outils, mais vous me dites...
Non, mais c'est très intéressant, et justement sur cette côté soft skills, un peu ce qu'on appelle, est-ce qu'il y en a que vous mettez plus en avant que d'autres? Est-ce que vous pouvez peut-être en citer quelques-uns qui sont primordiales justement pour avoir une uniformité finalement et faire en sorte que toutes les personnes qui sont finalement issues de différents parcours puissent s'entendre? Est-ce qu'il y en a un soft skills qui est pour vous le plus important?
Alors, je dirais que c'est l'aspect de la posture constructive. C'est-à-dire quand je vais recevoir quelque chose ou quand il y a quelque chose qui va être à améliorer, je vais être dans une posture où justement je souhaite améliorer les choses et je souhaite trouver dans la personne en face ou dans notre manière de fonctionner ce qui va et ce qui peut être amélioré et comment en fait prendre conscience, notamment on développe en interne aussi des méthodes de feedback constructif, de se dire même si c'est appuyé sur des choses à améliorer, comment je vais valoriser les compétences de l'autre qui vont permettre d'améliorer cette situation-là. Okay. Et finalement, ça se retrouve dans nos ateliers aussi, c'est t'as ces compétences-là, en fait, elles peuvent te servir. Et tout notre process, et que ce soit aussi dans notre recrutement, est vraiment centré autour des compétences. Et parce que pour nous, c'est ce qui nous semble une base assez commune et équitable pour rassembler et en même temps faire évoluer les gens.
Oui, en fait, vous regardez plus les compétences que le CV, finalement, ou le parcours de la personne quand vous recrutez, à la fois les personnes en externe et en interne. Justement, par rapport à ça, il y a eu quelques années la mise en place d'un CV anonyme. Vous, quel est votre avis? Est-ce que vous pensez que ça peut développer la diversité ou à l'inverse, ça peut créer des frustrations côté entreprise sur le fait de finalement l'anonymat, c'est bien, mais est-ce que c'est vraiment efficient?
Alors, nous, par exemple, je sais que dans nos processus de recrutement, là je parle en interne, quand nous on recrute des personnes pour notre association, on demande le CV, mais c'est pas un outil dont on sert pour évaluer la personne. Okay. C'est plus par curiosité pour comprendre le parcours et ça nous sert aussi d'outil de questionnement quand on est en entretien, etc. Et moi, je suis pas pour forcément une vision totalement pas de CV ou CV anonyme. C'est plutôt comment on s'en sert et qu'est-ce qui va nous apporter et quels sont les biais aussi liés à ça. C'est pas forcément de dire on n'a pas de CV ou s'ils sont anonymisés. C'est de se dire, si j'utilise le CV dans mon processus de recrutement, à quoi il va me servir et comment je vais en faire émerger des compétences que je veux pour le poste. Et aussi, quels peuvent être les biais liés à ça. Notamment, je pense aux biais de confirmation où, par exemple, on va lire un CV, on va se dire, tiens, cette personne, elle me semble créative. Et en fait, dans l'entretien, on va venir, notre cerveau automatiquement, on va venir plus se focaliser sur les informations qui vont venir confirmer cette première impression que les autres. Donc, on va pas, de manière objective, analyser les CV. Donc, c'est plutôt se poser la question. En tout cas, nous, c'est comme ça aussi qu'on accompagne nos partenaires, entreprises, etc. sur ces questions-là. C'est si je focalise sur les compétences dont j'ai besoin pour ce poste-là, qu'est-ce que je vais mettre en place dans mon processus qui vont me permettre de les identifier et qui vont me permettre de me concentrer principalement là-dessus, bien sûr derrière la motivation, etc., mais pas sur des critères qui peuvent être discriminants ou excluants. Et là, il y a un enjeu aussi à travailler là-dessus.
Et effectivement, sur les biais dans le recrutement, c'est quand on est recruteur, il y a énormément de biais. Vous avez parlé du biais de confirmation, il y a d'autres biais aussi liés aux études. La personne a fait la même master que moi, la même école, forcément c'est quelqu'un de bien. Comment vous auprès de vos partenaires et auprès de vos équipes RH, comment vous insufflez un peu ce changement et ce warning auprès des biais cognitifs qui sont présents? Il y en a plus de 250, je crois. Comment vous faites pour bah justement limiter ces biais ou même les supprimer?
Alors les supprimer, ça serait bien.
Ouais, c'est compliqué. Hein,
les limiter, ça peut être déjà pas mal. En fait, effectivement, le travail qu'on fait en interne, on le mène aussi en externe avec nos partenaires, entreprises, mais même acteurs de l'insertion, etc. Mmh. Sur ces questions d'inclusion. Et aussi, on parle nous souvent, par exemple, de recrutement inclusif et constructif. Mmh. Il y a cette notion d'inclusion, mais il y a aussi cette notion de comment rendre les process de recrutement constructifs. C'est finalement comment, en tant que recruteur, on se positionne aussi comme accompagnateur vers l'emploi. C'est-à-dire, même les candidats qu'on ne recrute pas, qu'est-ce qu'on peut leur apporter dans le processus qui va leur être utile pour la suite. Mmh. Et on a fait une enquête là-dessus. C'est assez hallucinant, les chiffres sur quand on vit mal un recrutement, l'impact que ça peut avoir sur soi ou sur sa recherche d'emploi et même sur l'image qu'on porte à l'entreprise. Et inversement, mmh. même quand je ne suis pas pris, en fait, je peux quand même avoir des choses qui me servent. Et donc, par rapport à l'aspect inclusion et par rapport au biais, on a trois manières, nous, d'interagir, d'intervenir avec nos entreprises partenaires. Mmh. Il y a toutes les actions de sensibilisation. Et par exemple, moi, je suis animatrice de la fresque de la diversité. On oui. a nos propres formats aussi de sensibilisation. Et on vient justement éclairer, voire même mettre un peu dans l'inconfort les personnes pour qu'elles se prennent conscience qu'il y a énormément de discrimination non intentionnelle, mm-hmm. que notre cerveau, il fonctionne d'une certaine manière qui fait qu'il catégorise l'information parce qu'il en a besoin pour survivre.
Tout à fait.
Il reçoit trop d'informations.
Le cerveau est feignant.
Exactement. Que ces catégories, on y attribue des stéréotypes, des caractéristiques, que ces stéréotypes peuvent se transformer en préjugés, c'est-à-dire en jugement sur la valeur de ces caractéristiques, mmh. et qui derrière peuvent découler sur ça me fait prendre une décision, avoir un comportement spécifique et donc mmh. qui peut être amené à discriminer. Et donc, un des premiers enjeux pour, je pense, nous tous et les entreprises, les organisations, c'est prendre conscience qu'on a tous des biais et qu'on peut être tous discriminants. Et ça, je pense que c'est déjà un premier pas. Une fois qu'on prend conscience de ça, ça veut pas dire qu'on limite tout. Ça fait une douzaine d'années que je travaille sur ces sujets-là et j'ai encore des biais et je m'en rends compte. Et d'ailleurs, c'est un exercice très intéressant
de se limiter finalement dans les biais, oui, d'analyser.
C'est ça. Il y a le cerveau rapide, c'est-à-dire, inconscient, on se rend pas compte comment ça mmh. fonctionne, et puis il y a un peu l'analyse a posteriori, et c'est intéressant de se dire, ah oui, là je crois que j'ai pensé ça, mais pas parce que c'est une compétence ou quelque chose de factuel que mmh. j'ai vu, mais parce que le profil de la personne m'a fait rappeler à ça.
Oui, c'est ça.
Donc voilà, déjà c'est un premier point, et ça ça crée des frottements. Moi, quand j'anime la fresque de la diversité et que on traite un peu ces sujets-là, on voit bien que c'est pas évident, mmh. Et qu'on me dit non, mais en fait, parce qu'il y a une question morale, c'est-à-dire si je suis discriminant, je suis pas une bonne personne.
Exactement.
Et donc, c'est de se dire, en fait, ça va plus loin que ça, c'est que c'est pas qu'une question de morale, c'est qu'on peut être tous discriminants, et donc, c'est pas forcément qu'on a une mauvaise intention, qu'on est une mauvaise personne, mais c'est déjà d'en prendre conscience, et donc ça vient déjà, c'est un premier pas énorme mmh. vers la prise de conscience de ça, et la prise en main après d'autres outils.
Et justement, vous parlez de la fresque de la diversité qui est apparue récemment, qui fait un peu suite aux fresques du climat, qui est plus connue du grand public. Est-ce que quelque chose que vous conseillez auprès de vos partenaires, auprès de structures qui voudraient mettre en place la diversité? Finalement, voilà, moi je suis une entreprise, je veux me lancer dans la diversité. Quelles sont à peu près les grandes étapes pour arriver à avoir une entreprise inclusive? Alors, c'est long, hein, généralement, ça se fait pas en un an, mais voilà, quelles sont un peu les grandes étapes, vous, de votre parcours aussi avec Active Action?
Il faut voir ça comme vraiment une vraie transformation. Donc finalement, c'est comment on accompagne une transformation, et on connaît tous les processus de transformation. Il y a des freins, il y a des remises en question qui sont pas évidentes. Et donc, un premier enjeu ou un premier pas que je vois, c'est effectivement travailler sur la vision. Justement, on parlait de diversité, d'inclusion, bien différencier ces termes. Mmh. Aujourd'hui, c'est venu un peu des États-Unis, l'aspect diversité-inclusion. On voit beaucoup ça dans les entreprises maintenant, des pôles, des axes diversité-inclusion, sauf que je ne suis pas sûre que ce soit compris.
Connu de tous.
La différence entre ces termes, où la diversité, finalement, ça veut dire avoir une équipe avec une variété de profils, et l'inclusion, c'est comment, finalement, ces profils-là, ils sont acceptés, c'est cette variété-là, elle est acceptée, et comment elle vit ensemble pour qu'on soit performant et qu'on soit heureux dans ce travail d'équipe. Et donc, la vision, c'est-à-dire plus seulement construire une vision autour de la diversité, dire je veux une variété de profils dans mon entreprise, mais plus qu'est-ce que finalement, de quoi j'ai envie dans mon organisation, même au niveau de la société, et travailler là-dessus. Et se dire pourquoi, en fait, je fais cette diversité, cette inclusion, qu'est-ce que moi j'ai envie de mener comme combat ou comme vision, envie de porter comme message. Et je pense que déjà, ça viendra un peu peut-être mettre de côté des habitudes qu'on a où on calque sur l'entreprise voisine un peu ce qu'ils font parce que ça marche bien et donc du coup on se dit ok. Donc,
ça marche chez moi, je le fais chez eux. Ça marche chez les autres, voilà. Je le fais chez eux.
Mais de travailler sur ça. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième, je pense effectivement, c'est prendre conscience de ses biais. Et ça, pour la fresque est hyper intéressante pour ça parce que c'est vraiment un atelier de prise de conscience. On va pas du tout parler de solutions, d'actions, etc. Mais c'est prise de conscience des enjeux que ça amène dans la société, prise de conscience à titre individuel de comment moi je peux être amené à discriminer, les biais qu'on peut avoir, comment fonctionne notre cerveau, etc., etc. Donc c'est pour moi un autre deuxième pas de prendre conscience de ça. Et puis après, je pense que la troisième partie, ça va être comment on réfléchit à des pistes d'action et comment on construit notre propre politique de diversité et d'inclusion. Et là, pour le coup, moi, ma bonne pratique que j'aurais à partager, c'est quand on travaille sur la diversité, il faut une diversité d'avis, une diversité de points de vue pour justement que ce soit pertinent.
Tout à fait.
Et donc, travaillons souvent de ce que je perçois dans les entreprises, notamment les grandes. Ça va être le pôle diversité et inclusion qui va travailler sur ces sujets-là. Mais finalement, les collaborateurs sont
pas impliqués.
Après, peut-être qu'ils veulent pas non plus, j'ai pas tous les enjeux en tête, mais comment on implique aussi les collaborateurs, comment on travaille avec des structures externes comme nous, mais plein d'autres qui sont spécialisés sur ces sujets pour avoir d'autres points de vue. En fait, on sort de sa zone de confort. Je pense qu'il faut passer pour vraiment qu'il y ait des changements, passer par l'inconfort. Et de pas avoir peur d'oser, d'aller chercher des choses qui sortent de l'ordinaire ou qui nous mettent dans une vision différente de ces sujets-là.
Il faut être prêt à l'inconfort quand on met en place la diversité, un peu comme dans la courbe du deuil finalement, où cette phase d'acceptation vient après une phase de déni et de colère. Est-ce que vous avez rencontré justement des entreprises ou des partenaires avec qui vous travaillez qui étaient vraiment dans une phase de déni assez longue, mais finalement, ça s'est bien fonctionné.
La difficulté dont je parlais de la sensibilisation, après, nous, on a des formations spécifiques et on a aussi un format plus conseil, accompagnement. Et c'est ça qu'on essaie de pousser parce que je pense que vous êtes bien placé pour le savoir, oui. Vous êtes aussi dans ce domaine. C'est ça qui, pour nous, a le plus d'impact. Parce que mener une politique de diversité et d'inclusion, ça se fait pas en un jour, ça se fait pas en trois heures, ça se fait pas en une sensibilisation de trois heures et ça prend du temps. Et c'est un processus qui, même, je pense, a besoin de maturer pendant plusieurs mois, voire années. Et la difficulté, je pense, à laquelle nous, des fois, on est confrontés, c'est que des entreprises qui veulent s'attaquer à ces sujets-là, en tout cas, quand ils nous sollicitent peut-être des acteurs externes, veulent que ça aille vite ou juste veulent qu'on intervienne sur un point en particulier.
Est-ce que vous avez des bonnes histoires ou des réussites d'entreprises qui, finalement, au départ, vous ont appelé pour faire de la diversité, un peu comme le greenwashing, diversité washing, et finalement, ont vraiment été impliquées dans le projet ou d'autres bonnes histoires à raconter sur la réussite?
Oui, alors je pense à plusieurs exemples, mais encore une fois, c'était aussi comment les personnes avec qui on travaille vont individuellement vouloir faire des choses différentes. Je prends l'exemple de... On a travaillé avec Vinci Énergie, alors pas tout Vinci Énergie, mais en tout cas une dizaine de RH de leur réseau. Et on les a formés au recrutement inclusif et constructif. Et sur cette dizaine de personnes, je pense que 2-3 personnes se sont emparées du sujet et derrière ont mis en place des choses. Mais d'ailleurs, très rapidement, d'ailleurs, ça, c'est aussi un autre a priori qu'il faut lever. C'est si je veux être inclusif, ça va me prendre du temps, c'est hyper lourd. Non, on peut déjà mener des petites actions au quotidien ou faire changer des choses qui finalement ne demandent pas beaucoup de temps, ni d'argent, ni de tout changer. Et justement, là, c'est un bon exemple. C'est que c'est 2-3 personnes qui ont vraiment dit, tiens, moi, je vois ce que je peux faire concrètement demain, dans leurs offres d'emploi, elles ont supprimé la notion de Bac+5 ou d'expérience, etc. Elles se sont dit, en fait, pourquoi on veut un Bac+5 ou pourquoi on veut tel type d'expérience? C'est parce qu'on cherche tel type de compétences et se sont vraiment centrées
sur
les compétences. Donc, on supprimait tous les critères un peu excluants et se sont concentrés là-dessus et ont aussi rajouté des choses à leur manière hyper intéressantes. Par exemple, si vous n'avez pas toutes ces compétences ou notamment celles-ci, on peut vous former en interne, etc., etc. Donc, c'est cette posture aussi de, finalement, on cherche pas le mouton à 36 pattes, mais vraiment, au moins que certaines de ces compétences soient acquises et après le reste, on peut aussi voir comment on travaille ensemble. Et donc, c'était très rapide derrière et il y a eu un impact où elles se sont dit finalement, c'est pas si compliqué que ça. En tout cas, on peut commencer par certaines choses et ça nous ouvre plus de portes et plus aussi de candidats parce que ça, c'est aussi un enjeu actuel, je pense, des entreprises, c'est comment on attire des personnes et ça peut être un bon moyen justement de s'ouvrir à ces sujets-là. Mais pas que pour les postes peu qualifiés, parce que c'est aussi ce que moi j'ai pu voir en accompagnant des entreprises, c'est que des personnes très partantes
pour
la diversité, mais pour des postes qui demandaient peu de qualifications.
Oui.
Et que dès qu'on s'attaque à des postes de responsables ou avec qui demandent des compétences peut-être plus renforcées en gestion de projet ou en connaissance du sujet, là on sent que les freins sur le bac plus 5, sur l'expérience sont quand même encore très fort. Et
puis c'est très français alors de juger la personne sur son diplôme et son parcours scolaire plutôt que sur les compétences. C'est vrai qu'on traverse ne serait-ce que la Manche ou l'Atlantique, les pays anglo-saxons sont beaucoup plus ouverts sur un parcours de vie professionnel totalement chaotique, mais c'est la personne et les compétences. C'est vrai qu'en France il faut comme vous le disiez, batailler un peu plus quand on passe les niveaux supérieurs cadre ou avec des diplômes demandés.
Exactement. Et un bel exemple que nous, on mène aussi, alors là, je parle plus de nos actions auprès des personnes en recherche d'emploi, c'est que ça questionnait beaucoup quand on leur a dit nous, on veut faire des groupes d'entraide diversifiés. Et en plus de ça, notre manière de fonctionner, c'est que on rend acteurs les personnes en recherche d'emploi. C'est-à-dire que les personnes qui le souhaitent sont formées pour, à leur tour, animer des ateliers. Donc, en fait, on a dans certaines villes où on est, c'est que des personnes en recherche d'emploi qui animent le réseau et qui s'entraident entre elles. Et ça, au début, nos partenaires, ils n'y croyaient pas du tout, en disant, non, ils sont en recherche d'emploi, ils peuvent pas prendre cette posture ou c'est pas habituel, etc. Mmh. Et aujourd'hui, on voit qu'on questionne moins ces choses-là. On se dit, OK, ça a marché, ça monte. Et pas que nous, je pense que ça existe dans d'autres structures ou d'autres secteurs. Et c'est possible, en fait. Et ça vient commencer à casser un peu les barrières de tel type de profil ou ne sont capables que de faire ça, etc. etc.
Oui, ça, on sort un peu encore des biais, des biais qu'on a de confirmation. La personne peut-être issue d'une autre catégorie de la diversité n'est pas capable d'eux, mais en fait, pas du tout. On s'aperçoit que tout le monde est capable dès qu'il y a les compétences. On parlait de la fraise de la diversité. Est-ce que vous avez d'autres innovations qui peuvent être mises en place en entreprise pour planter la petite graine de la diversité, finalement? Est-ce que vous avez d'autres bonnes pratiques?
Alors, nous, on fait pas mal de choses en interne qu'on met dans nos formations et qu'on transmet aussi à nos partenaires avec qui on travaille sur ces questions-là. Et justement, notre approche à nous, elle est très transversale. C'est-à-dire qu'on n'est pas expert. On a un peu d'expertise en interne sur le handicap, mais ça va pas être non plus notre gros sujet d'expertise. On va pas être expert des questions de genre. On va pas être expert sur ces différents. Par contre, on a une approche où on se dit comment créer un environnement de travail qui va permettre à chacun d'être assez en confiance pour échanger avec les autres, collaborer avec les autres et pouvoir continuer à développer ses compétences. Et donc, certains outils qu'on propose et qu'on met en place, je pense notamment à ce qu'on appelle chez nous le cadre de travail, c'est-à-dire que chaque nouveau salarié qui rentre chez nous dans le premier mois avec son manager, son référent, ils vont se poser des questions mutuelles sur quelles sont mes limites, quels sont mes besoins, quel changement le fait de travailler dans ce contexte va amener chez moi, qu'est-ce qui me donne de l'énergie, qu'est-ce qui m'en prend. Et on se pose ces questions mutuelles, ce qui fait qu'en fait, ça va permettre de très vite de comprendre aussi comment fonctionne l'autre, quels sont ses besoins et de créer une relation équitable entre manager, managé et finalement ça joue dans cette notion de diversité d'inclusion parce que c'est pas seulement demander les besoins à des personnes qui potentiellement auraient plus de difficultés parce que non, c'est en fait finalement créer des relations où on capte un peu les besoins et les façons de travailler des gens et on essaye de faire matcher ça. Donc il y a cet exemple et c'est simple à mettre en place. C'est pas révolutionnaire non plus, mais finalement
c'est remettre l'humain et l'échange au cœur des bonnes pratiques dès l'arrivée d'une personne, quoi.
Exactement. Je pense à ça, on travaille aussi pas mal sur le rapport empathique qu'on a créé cet outil-là, qui fait que qu'on utilise pareil dans différents contextes, mais c'est par exemple de se dire, tiens, cette personne, si elle est dans cette situation-là, on se met à sa place en disant, ok, je suis cette personne, je suis dans cette situation-là, qu'est-ce que je ressens? Quels sont mes ressentis? Quels seraient mes besoins? Et du coup, ça vient tout de suite faire un pas de côté en se disant, ah oui, en fait, j'avais un a priori où je jugeais, parce que, et en fait, si j'utilise cet outil-là, je me dis, la personne personne, elle réagit peut-être comme ça parce qu'elle a ce besoin-là. Mm-hmm. Donc voilà, encore une fois, c'est comment on travaille sur l'aspect compétences psychosociales, sur l'écoute active, le non-jugement, la capacité à comprendre, gérer ses émotions, la capacité à être constructif, à prendre des décisions de manière éclairée. Donc et des outils qui viennent transmettre ça petit à petit aux personnes.
Et justement, si je fais un peu l'avocat du diable, est-ce qu'il y a des limites quand vous avez mis ça en place dans votre association? Est-ce que vous avez eu des freins, des réticences, ou ça s'est fait finalement naturellement?
Il y a... Non, ça serait trop beau. Et on en rencontre encore. Et je pense qu'ils sont de différents ordres, on va dire. Comme dit, il y a la notion d'inconfort. Que ce soit dans nos ateliers, quand on réunit des gens hyper différents, que ce soit en interne, quand on propose ce genre de choses, c'est « Ah oui, ok, mais de réfléchir de cette manière-là, ça me demande moi aussi de me remettre un peu en question, ça me demande de faire des choses dont, ou d'avoir des comportements ou des postures dont j'ai pas l'habitude parce que j'ai plus l'habitude de juger les gens ou de critiquer derrière le dos. Voilà, on l'a tous fait ou on le fera peut-être encore, mais et de se dire « Bah là, en fait, plutôt, il faut que j'adopte cette posture-là. » Donc, il y a cette notion d'inconfort et donc, finalement, on revient là sur le processus de changement.
Oui.
Et donc voilà, de freins, de deuil, etc., etc. Et après, je trouve que si vraiment on se concentre sur l'aspect relationnel dans le milieu professionnel, ben il y a des choses aussi. Là, depuis tout à l'heure, on parle beaucoup sur l'aspect organisationnel, mais il faut se rendre compte que nos entreprises, nos organisations aujourd'hui s'intègrent dans un système société. Plus large, dans une société qui a aussi ses propres fonctionnements, sa propre culture, sa propre histoire, qui amène certains schémas à se répéter. Ou voilà, par exemple, l'aspect employeur versus salarié. Enfin voilà, il y a des choses encore très ancrées, très fortes. Oui. Et donc du coup, ben c'est pas simple à lever. Et ça demande un travail un peu de tous les jours, etc. Donc c'est pas simple. Et qui dit diversité et inclusion aussi, il faut se dire, ça veut pas dire qu'on accepte les comportements de tout le monde et qu'il faut tout accepter sous le titre, ben oui, en fait, on veut être inclusif, donc on accepte n'importe quoi, etc. Donc c'est aussi, justement, si on se concentre sur le cadre, sur les règles de vie en commun, sur les compétences, ben ça vient un peu lisser tout ça, mais voilà, c'est pas... il faut pas oublier qu'il y a quand même...
Un cadre
et qu'on peut...
Voilà, on peut pas tout faire non plus. Plus sous le
tout
titre
accepter,
et tout accepter
voilà,
sous la bannière diversité et inclusion. Et c'est vrai ce que vous dites sur la... finalement, une entreprise, c'est un écosystème qui s'intègre dans un plus gros qui est la société. Et justement, ou même quand une entreprise est inclusive et a mis en place la diversité, quand elle sort un peu de ses frontières, ça peut être aussi un peu compliqué de se confronter justement à une société qui ne l'est pas forcément ou pas encore. Et vous, comment vous arrivez à accompagner vos salariés à ce niveau-là, vous avez toute une démarche de diversité et inclusion au sein d'Active Action, mais finalement, quand ils sont confrontés à d'autres faits de société, comment vous arrivez à interagir, à faire en sorte que les salariés sont toujours porteurs et ambassadeurs de la diversité et inclusion?
Et ben, effectivement, on a créé un réseau d'ambassadeurs. D'ailleurs, que ce soit nos salariés ou même les personnes qui participent à nos ateliers, les personnes en recherche d'emploi, de se dire, ben finalement, on a accompagné quasiment 30 000 personnes depuis 10 ans. Ces personnes-là sont maintenant dans des structures. Comment elles peuvent aussi transmettre ces choses-là? Après, c'est encore quelque chose sur lequel on travaille, mais je pense que c'est vraiment via l'expérience, via le mimétisme et via finalement ce qu'on en retire, j'ai expérimenté ça, finalement c'est pas trop mal. J'ai envie de retrouver ça ailleurs, donc je vais essayer de le partager. Okay. Mais effectivement, d'ailleurs c'est une question qu'on se pose souvent et même à laquelle on est confronté régulièrement, même sur le terrain, etc. Cette difficulté à porter une vision et un rêve et d'être confronté à la réalité en se disant bon, finalement c'est pas si simple que ça. Finalement il y a encore beaucoup de choses qui se passent. Comment on avance? Mais on reste focalisé sur ce qu'on peut faire à notre échelle, sur ce qu'on peut apporter et finalement d'être confronté à ces difficultés, c'est aussi comme ça qu'on innove. C'est aussi comme ça qu'on se dit ça marche pas totalement. Qu'est-ce qu'on doit ou qu'est-ce qu'on doit renforcer? Et ça nous pousse, on a encore testé des nouveaux outils, à se dire, finalement, peut-être qu'on peut pousser ça comme ça ou faire ça comme ça. Et je pense que toute organisation, nous, on a aussi cette expérience. Là, si je parle de l'interne, on est une cinquantaine de personnes. enfin, ça sera pas la même chose dans une entreprise de 100 personnes, ça sera pas la même chose dans une entreprise de 10 personnes. Donc, chaque entreprise doit, c'est pour ça la co-construction, je pense, avec les personnes de son équipe sont importantes. C'est-à-dire comment on adapte et comment on crée nos propres outils.
Internes, finalement. Mmh. Très bien. Eh ben, merci beaucoup, Pauline, pour cette interview. On arrive au terme de cet épisode de One Podcast sur la diversité. Si cela vous a plu, vous a donné envie de mettre en pratique, de réagir, ou de savoir un peu plus, partagez vos réactions sur nos réseaux sociaux pour poursuivre ces échanges et faire grandir ensemble les ressources humaines de nos entreprises. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode et de partager ce podcast avec vos collègues, confrères et votre réseau. Rendez-vous sur nos réseaux sociaux, page LinkedIn et Facebook, ainsi que sur notre site internet onerh.fr pour vous abonner à nos newsletters. Merci beaucoup, Pauline, pour cet échange très intéressant.
Avec plaisir.
Bonne journée et puis à bientôt pour le prochain One Podcast.